Bon, je reprends les présentations. Comme la semaine dernière, je fais un très court rappel des deux épisodes des semaines précédentes.
Est-ce que vous entendez bien ça?
Ça marche bien, hein? C'est magnifique. Il faudrait que je vous amène, un de ces jours, quand il sera présent sur Lyon. Je travaille maintenant sur les canuts avec un collègue américain qui est un peu plus âgé que moi, qui est pratiquement en fin de carrière et qui avait fait sa thèse à peu près dans les années 70 à Lyon. Et c'est un type qui est absolument passionné par Lyon, les canuts, tout ça. Et il a une particularité, c'est que quand on lui dit n'importe quoi sur les canuts, sa réponse est « c'est merveilleux, c'est merveilleux, oh oui, c'est super, c'est merveilleux ». Donc là, on est un petit peu dans une situation d'émerveillement par rapport au micro. Bon, concernant les épisodes précédents, je vous ai dit que je me centrerai dans ces quelques conférences, dans ces quelques présentations sur la période 30-35, la période qui entoure les deux insurrections, et que je voulais, par un certain nombre d'interrogations, un tout petit peu retraverser, recheminer à travers cette histoire des années de tumulte, les retraverser avec des perspectives qui sont un tout petit peu différentes de celles qui ont été avancées sur l'histoire des canuts et de leur insurrection depuis pas mal de temps. La première direction qu'on a prise, ça a été la première transversale, j'ai utilisé le terme transversale la dernière fois, la première transversale était de savoir si en quoi le canut était un ouvrier. On l'a très longtemps présenté comme un ouvrier, et dans ce premier cheminement, je vous avais expliqué que les travaux qui ont été faits récemment sur ce système de la manufacture, le système de la fabrique, c'est-à-dire de l'industrie de la soie lyonnaise, son histoire, sa constitution, les travaux récents qui ont travaillé là-dessus ont montré qu'on était dans un système qui n'était pas le système de la manufacture concentrée dans lequel va éclore la classe ouvrière, la classe des ouvriers concentrés, dont le travail a été dans le cadre de la manufacture concentrée, puis de l'usine. Le travail a été parcellisé, standardisé, divisé. Ça, c'est une histoire qui arrive assez vite, mais qui, dans le cas français, arrive dans la deuxième partie du XIXe siècle et dans le cas lyonnais encore un tout petit peu plus tard. Non, on n'est pas dans cette situation-là à Lyon, dans la période qui nous intéresse. On est dans un système de manufacture dispersée, c'est-à-dire un ensemble de petits ateliers, et le principal acquis des travaux qui se sont faits depuis 20 ans ou 30 ans sur ce système de la manufacture dispersée a été de dire que ce n'était pas du tout un système dépassé à ce moment-là, c'était un système performant, innovatif et autres. Et donc le canut apparaît bien plus comme un artisan qualifié, un artisan alphabétisé, le taux d'alphabétisation est très très important, que strictement un ouvrier tel qu'il va apparaître dans la deuxième partie du XIXe siècle. La deuxième transversale qu'on avait pris était d'interroger l'image qui voulait qu'en quelque sorte le canut et les insurrections aient été comme finalement un soleil qui était apparu à ce moment-là, l'aube du mouvement social, le premier acte du mouvement social moderne, le premier acte de la lutte sociale, de la lutte des classes et autres, dans ces années 1830, qui allait être répété après 1848, et puis de nouveau mis en travail par la classe ouvrière dans la deuxième partie du XIXe siècle. On avait interrogé ça en disant, c'est vrai dans un sens, il se passe quelque chose de neuf, mais dans un autre sens, il faut voir à quel point ce système qui évolue effectivement dans la période 1831, 1834, 1830, 1835, est un système qui reposait sur des fondements qui étaient des fondements anciens et des fondements dans lesquels avait été expérimenté tout un ensemble de régulations dans le cadre de cette économie d'atelier, tout un ensemble de régulations mises en place par des institutions. On avait un petit peu détaillé ça la dernière fois, telles que le tribunal des prud'hommes institué à Lyon en 1806, puis le développement du mutualisme, puis d'autres institutions de ce type. Donc, il se passe quelque chose de nouveau en 1831-1834, c'est vrai, mais ceci dit, ça s'appuie sur cet ancien système de la fabrique, son évolution et cette espèce de démocratie d'atelier. On a utilisé le terme qui est repris qui est repris d'un collègue qui s'appelle Alain Cotreau, qui utilise le terme démocratie souterraine, démocratie presque pas clandestine, mais démocratie locale d'atelier. Aujourd'hui, je vais proposer deux autres cheminements, deux autres questions. La première, c'est le Canu comme révolutionnaire. Je vous montrerai en quel sens ça recouvre une part de vérité, mais en quel sens également les Canus prennent voix en 1831-1834 en s'écriant au moment de l'insurrection « Vivre en travaillant, mourir en combattant », mais ils prennent voix aussi sous d'autres formes, et en particulier par la création d'un journal dans lequel ils vont présenter des revendications constructives, suivies, argumentées et autres. Donc je parlerai un petit peu de ça, et puis je remettrai en question l'image du Canu, une autre image qui arrive un petit peu, qu'on voit charrier un petit peu dans cette histoire, c'est le Canu comme gobe-mouche. Alors j'utilise le terme gobe-mouche parce que c'est un terme qui est utilisé par le journal de la préfecture, dont je vous parlerai tout à l'heure un petit peu, qui est le journal du pouvoir orléaniste, du nouveau pouvoir d'Orléans, du roi Louis Philippe. Il y a un journal à Lyon, qui est son journal, en quelque sorte, qui est créé en fin 1831, début 1832, qui s'appelle Le Courrier de Lyon. Et dans un des numéros du Courrier de Lyon, le journaliste explique que, finalement, ces ouvriers qui se sont révoltés, en fait, n'étaient que des gobe-mouches, c'est-à-dire des crédules, l'autre terme qui est utilisé, il parle de gobe-mouches qui peuplent nos cafés, donc des crédules plutôt oisifs, qui peuplent nos cafés, et qui sont menés par des chefs naturels. Donc finalement, c'est l'image du Canu, une autre image qui a été charriée par une part de l'historiographie, c'est l'image du Canu comme finalement soldat de base, troufion d'un mouvement d'émancipation, révolutionnaire ou autre, mais qui était mené fondamentalement par des intellectuels socialistes, républicains ou autres. Donc là aussi, j'interroge un petit peu cette image qu'on a pu avoir à certains moments du Canu. Donc, le premier cheminement était sur donc novembre 31 et avril 1834, ébauche de révolution. Comme je vous l'ai dit, pendant longtemps, on a considéré que les révolutions, les révoltes des Canus étaient les toutes premières manifestations de la lutte des classes au XIXe siècle en Europe. Les Anglais étaient aussi sur les... Il y avait des violences à Bristol, il y avait des violences dans d'autres pays européens, mais les violences les plus généralisées conduisant, comme dans le cas de Lyon, on l'avait vu dans les premières séances, à la capture de la cité, à la chute de la cité aux mains des ouvriers, ça, il n'y a eu qu'à Lyon qui a eu ce phénomène-là. Donc pendant longtemps, on a considéré qu'il devait être interprété dans ce sens comme la première fois où, en quelque sorte, les ouvriers, en voie d'être dépossédés du capital, avaient pris les armes, avaient compris qu'il fallait prendre les armes et faire violence et essayer de se dresser contre la bourgeoisie pour finalement maintenir, conquérir l'émancipation. Ce qu'il faut voir, j'en parle très rapidement parce que sinon je m'étendrai trop là-dessus, c'est qu'au moment des insurrections même, l'interprétation est beaucoup plus... On est frappé de voir que l'interprétation est beaucoup plus indécise concernant la signification de novembre 1831. On sait même... Les commentateurs de l'époque ne savent même pas trop comment nommer ce qui vient de se passer. Certains vont utiliser le terme de trouble, les troupes de Lyon. On va parler des troupes de Lyon. On va parler également... des événements de Lyon, événements. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, c'est des événements. Les premiers qui vont véritablement utiliser les termes d'insurrection aussi se situent à ce moment-là. Mais ceci dit, il y a débat sur les mots, et juste une parenthèse là-dessus, bien entendu, ce débat sur les mots va se poursuivre pendant deux siècles. Ce n'est pas du tout la même chose de nommer l'insurrection de Lyon, par exemple, comme le fera Godard en 31, une émeute, et le nommer une révolution. Donc il y a tout un enjeu qui s'est fait pendant 150 ans pour savoir comment déjà on nommait l'événement novembre 1831, quel terme on utilisait. Comme je vous l'avais dit un petit peu, puisqu'on avait commencé la semaine dernière, il me semble, quand on regarde la littérature, quand on regarde les textes, parus à cette époque, et en particulier les textes du journal que je vais vous présenter dans un moment, on se rencontre plutôt que du côté des chefs d'atelier et du côté du peuple des soyeux, la violence est plutôt refusée dans toute cette période-là. Ils sont extrêmement mesurés en novembre 31 et même en avril 34. Ils sont extrêmement mesurés quant à l'usage de la violence qu'ils pensent pouvoir employer que véritablement en dernier recours. Pourquoi ? Parce que simplement la conjoncture déjà de la fabrique, comme je l'ai dit, est une conjoncture depuis 1827 qui est plutôt une conjoncture dépressionniste. L'activité de la fabrique va mal, ils le savent très bien, et ils savent très bien qu'en cas de violence et en cas de destruction, c'est eux qui paieront les premiers les conséquences de l'insurrection. Deuxièmement, ils tournent le plus longtemps possible, jusqu'au moment où ils vont s'engager dans l'insurrection, ils tournent le plus longtemps possible le dos à la violence, parce que pour eux la violence c'est l'activité principale d'un temps révolu qui était le temps des aristocrates. Un point qui est significatif, et j'en avais pas parlé la semaine dernière, c'est que l'un, il va y avoir de nombreux articles dans la presse des Canuts contre la pratique du duel, qu'on va considérer comme une pratique totalement anachronique pour l'un des nouveaux acteurs qui va apparaître sur la chaîne de Lyon, le journaliste, mais également totalement anachronique pour les travailleurs, les chefs d'atelier et autres. Donc il y a énormément de littérature sur ce terme-là. Et quand on regarde l'interprétation qu'ils vont faire de l'insurrection de 1831, ils diront en novembre 1831, effectivement il y a eu combat, effectivement on n'a pas pu l'éviter, mais c'était un accident parce que dans les temps industriels qui arrivent et dans lesquels on va se voir généraliser, donc là je parle par leur bouche, dans lesquels on va se voir généraliser les procédures de négociation qu'on a mis en place dans le cadre des prud'hommes, dans le cadre de cette économie d'atelier, normalement il y aura toujours des conflits d'intérêts, un certain nombre de conflits d'intérêts, mais ces conflits d'intérêts sont négociables. Et la preuve en est, disent-ils, la preuve en est que, regardez les statistiques des conseils des prud'hommes, 9 cas sur 10, mais c'est même beaucoup plus que ça, c'est presque 19 cas sur 20, aboutissent à des conciliations. Donc, n'aboutissent pas à des jugements, mais à des conciliations. Donc, les différents partenaires ont des conflits d'intérêts, mais trouvent assez facilement des compromis. Et pour arriver à la lutte violente, pour arriver à l'affrontement, pour arriver au duel, il faut vraiment qu'un des deux partenaires soit complètement rétrograde, soit complètement bouché. Et l'interprétation qu'il donne en 1831, en novembre 1831, l'interprétation qu'on va trouver dans le journal des Canuts, c'est de dire, s'il y a eu une insurrection, c'est pour une raison unique. C'est vrai qu'il y avait des conditions objectives économiques qui étaient difficiles, mais il y a eu conflagration, il y a eu embrasement, en raison de la conduite immature des négociants. Et c'est en particulier les provocations des négociants, leur volonté d'humilier le Canut, on retrouve ça dans toute cette littérature, leur volonté d'humilier le Canut, qui a été véritablement à l'origine de l'étincelle qui a donné le point de départ de l'insurrection des 21, 22, 23 novembre 1831. Et eux disent, nous on n'était pas du tout dans cette position-là, on était plutôt dans une position à respecter l'ordre, à respecter le travail, à respecter la continuité de la production. Alors je vous avais dit que finalement c'était... Si on cherchait à les positionner en utilisant la formule qui apparaît dans le premier jour ou dans le second jour de l'insurrection de novembre, c'est-à-dire vivre en travaillant ou mourir en combattant, on se rendait compte qu'effectivement, pour l'artisan, puisqu'il se pensait comme artisan, artisan détenteur de savoir et de savoir-faire, artisan ayant accès à la régulation institutionnelle et technologique de son métier, pour ces artisans-là, effectivement, l'objectif était de vivre en travaillant pour éviter probablement l'alternative qui est posée dans le cadre de la formule, c'est-à-dire mourir en combattant, mais pour éviter surtout deux autres choses, qui étaient de vivre en combattant, et je vous avais dit, ils refusaient ça, parce que pour eux, vivre en combattant, c'était effectivement un idéal, mais c'était l'idéal des aristocrates, c'était l'idéal des guerriers, c'était l'idéal finalement de l'Empire et avant l'Empire de la royauté. Donc de vivre dans un temps qui était un temps de conquête, de guerre, sanglante et autres. Donc non, c'était pas ça. Et surtout, ce qu'il fallait éviter pour eux, C'était la situation dans laquelle il se trouvait si les prix des façons baissaient trop fortement sur le marché de la soie à Lyon, c'était de mourir en travaillant. D'accord ? Et c'est principalement sur ça qu'ils se battent. Alors, je vous l'ai dit, ils se battent, bien entendu, quand la situation devient intenable pour des raisons de provocation. Ils se battent en une partie d'entre eux, des chefs d'atelier. Bon, si on regarde la sociologie de l'insurrection, on se rend compte qu'il y a des chefs d'atelier, il y a beaucoup de compagnons, il y a les premiers républicains, il y a des légitimistes qui sont les nostalgiques de la royauté telle qu'elle existait sous la Restauration. Donc ils se battent, mais ils se battent aussi d'une autre manière, et donc j'en viens au point 2, la nécessité d'une voix. Ils se battent en décidant de prendre la parole collectivement à Lyon. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que cette période 1830-1835 est si intéressante parce que, je vous l'ai dit, il y a des révolutions diverses qui sont politiques avec la révolution de 1830, économiques avec les premières crises de surproduction, les premières crises économiques, les premières crises périodiques. C'est une révolution scientifique, mais c'est aussi une révolution sur le plan de la communication. Parce qu'on considère que c'est en gros, à partir de la charte de juillet 1830, qui libère, l'article 7 de la charte, libère la publicité, la publicité des opinions. Donc elle libère la presse. La presse va commencer à se développer pour cette raison-là, mais aussi en raison d'un certain nombre de changements technologiques sur lesquels je ne peux pas intervenir ici, qui touchent au régime typographique, à la typographie, et également en raison d'innovations commerciales qui vont être expérimentées en gros à partir de 1834-1835. Ce qui est important dans cette période-là, c'est que, pour faire le parallèle avec, peut-être un parallèle, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais pour faire le parallèle avec la situation actuelle, c'est véritablement qu'on est dans une situation d'apparition d'un nouveau média, un média qui est complètement neuf, et qui va permettre finalement de développer et de diffuser les opinions, de créer une opinion public, non seulement à Lyon, mais également au niveau régional et puis au niveau national. Concernant cette citation, je vous citerai une remarque qui est faite par un libraire de Lyon qui a un nom fameux, puisqu'il s'appelle Louis Babeuf, c'est le petit-fils du révolutionnaire Gracchus Babeuf, et il crée au début des années 30 une revue qui s'appelle le Journal des intérêts moraux et matériels, et voilà ce qu'il écrit. Donc ça porte témoignage finalement de cet outil nouveau de communication qu'est le journal. Il écrit « Le principal avantage dont on fasse honneur à la presse, c'est de porter rapidement et malgré les distances à la connaissance de tous les hommes ce qui se découvre d'utile, ce qui s'imagine d'ingénieux, ce qui se passe d'intéressant dans toutes les parties civilisées du globe. Toute découverte est transmise à l'instant à ceux qui peuvent en profiter. Tout perfectionnement dans un art quelconque parvient à ceux qui pratiquent cet art. En un mot, tous profitent à leur gré de ce que chacun a pensé, dit, trouvé, essayé, inventé ou amélioré. Ainsi, les préjugés disparaissent, les idées fausses ne peuvent prendre aucun empire. Ainsi, la société humaine marche dans une prospérité toujours croissante. C'est la presse qui a produit tout ce bien. Elle est la raison de cette progression, le foyer de cette lumière, le pivot de ce grand mouvement, le lien qui unit tous les hommes en une véritable association, en une communauté d'efforts et d'intérêts, de travaux et de produits. Donc ce qu'on voit apparaître au lendemain de 1830, c'est la presse. On la voit apparaître dans toutes les franges de l'opinion, mais on la voit aussi apparaître, et là c'est une nouveauté qui est absolument radicale, parce que finalement la presse existait également des années précédentes sous la Restauration. C'était une presse qui était énormément censurée, mais il y avait un début de presse libérale en 1824-1825. Il y avait par exemple un grand journal libéral qui s'appelle Le Globe, qui commence à apparaître. Donc 1830 donne un nouvel élan, mais il donne un nouvel élan aussi à des voix qui étaient des voix complètement méconnues. Et à l'automne 1830, par exemple, les ouvriers créent pendant quelques semaines à Paris des feuilles ouvrières. C'est les toutes premières qu'on voit apparaître. Je fais une parenthèse aussi là. Une autre voix qui va apparaître à ce moment-là, c'est par exemple la voix des femmes, notamment à Lyon, puisqu'il y a à Lyon, mais aussi à Paris. À Paris, il y a un certain nombre de Saint-Simoniennes qui vont créer La Femme Libre, qui est un premier journal de femmes. À Lyon, il y a une disciple des Saint-Simoniens qui s'appelle Eugénie Niboyer, qui va également créer un journal qui s'appelle Le Conseiller des Femmes. Donc on voit apparaître des nouvelles donnes dans l'opinion de cette période-là. Les ouvriers parisiens ont créé, eux, cette presse, mais qui dure à l'automne 1830 à Paris, ça dure quelques semaines. Dans l'intervalle, à Lyon, se crée un véritable champ journalistique, c'est-à-dire auparavant il y avait une ou deux opinions, mais surtout l'opinion royaliste, légitimiste à ce moment-là, qui s'exprimait. Au lendemain de 1830, les feuilles commencent à apparaître un petit peu partout. Les républicains créent leur journal, ils ont deux journaux, un journal qui est plutôt, je dirais, à la gauche de la gauche, qui s'appelle La Glaneuse, un autre qui est un journal plus républicain, plus girondin, qui s'appelle Le Précurseur, qui était un journal libéral, qui devient un journal républicain. Vous avez les légitimistes qui s'expriment, je crois, dans un journal qui s'appelle La Gazette de Lyon. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le nouveau pouvoir orléaniste qui crée son journal, qui s'appelle Le Courrier de Lyon, qui va être... c'est un journal qui, pour citer les journalistes de l'Écho, va avoir le cauchemar, la monomanie du prolétariat, mais qui également va avoir énormément de monomanie et de cauchemars dans cette période-là. C'est le journal du pouvoir. Et puis, les ouvriers de Lyon, les canuts, les chefs d'atelier, décident qu'eux aussi, il faut qu'ils aient une voix qui porte dans le cadre du débat public sur la place de Lyon, qui aborde bien entendu les intérêts de la fabrique, mais qui aborde également les intérêts de la classe ouvrière et peut-être plus largement les intérêts généraux de la France. Quand on regarde l'écho de la fabrique, donc, l'écho de la fabrique, je l'ai dit dans une des présentations précédentes, le prospectus de l'écho de la fabrique circule dans les dernières semaines, dans les derniers jours d'octobre 1831. Il est lancé le 30 octobre 1831. Il gardera ce titre, l'écho de la fabrique, de 1831 à 1834. Comme je l'ai dit également, en 1834, après la deuxième insurrection d'avril 1934, il disparaît, il est censuré, coupé par le pouvoir pendant quelques mois, puis la presse ouvrière ressurgit, et l'écho de la fabrique va reparaître pendant une année sous le titre l'indicateur. Lorsqu'il apparaît, donc là c'est pas le... Là c'est le numéro de mars, c'est le numéro de mars ou avril 1932. Lorsqu'il apparaît, il porte en sous-titre « Journal des chefs d'atelier et des ouvriers en soi ». Il porte ce sous-titre, donc il apparaît comme le journal d'une seule industrie, d'une seule corporation. Il porte ce sous-titre sur un seul numéro. Très rapidement, il change et ce changement de sous-titre signale qu'il a des ambitions qui sont beaucoup plus vastes, pas celui simplement de représenter sa corporation, et il va devenir très rapidement, ça c'est le sous-titre définitif, non, c'est pas le sous-titre définitif, d'ailleurs. Il devient journal industriel et littéraire de Lyon. Si, si, c'est le titre qui va rester après. Donc, ça devient le journal des industriels. Il faut savoir que dans le vocabulaire de l'époque, les industriels, c'est les travailleurs, en fait. C'est tous ceux qui travaillent, les industriels. Alors, journal industriel, parce qu'il va parler des matières industrielles, également, les matières qui sont des matières principalement économiques, les matières relatives à la production, et littéraire également, parce que ce journal, il va le dire rapidement, vise à l'émancipation physique, c'est-à-dire la défense des intérêts matériels, et l'émancipation morale, c'est l'éducation, des travailleurs. L'enjeu, très rapidement, le journal apparaît et perçu par les ouvriers comme une véritable arme, et donc je vous cite une remarque qui est faite par certainement l'un des plus pugnaces et peut-être l'un des plus belliqueux d'entre eux, et il est probablement belliqueux parce que ce n'est pas un chef d'atelier, mais c'est plutôt un républicain, un type qui s'appelle Chastain, Marius Chastain, puisque je parlerai des directions de l'ouvrage tout à l'heure, mais des directions du journal tout à l'heure. Mais en fait, le journal a été dirigé parfois par des chefs d'atelier, parfois par des journalistes, parfois par des demi-lettrés, et donc finalement il y a des voix qui sont des voix un petit peu différentes qu'on voit s'élever à l'intérieur du journal. Mais voilà ce qu'écrit Chastain. Donc il définit le journal et il dit « Bouclier, un journal sert d'arme défensive. Javelot, il sert à l'attaque. Miroir, il réfléchit les opinions. Arène, il leur ouvre un champ libre. Table rase, il reçoit et conserve leurs expressions diverses. » Donc c'est un énorme enjeu à ce moment-là. Ça a été une innovation qui a été une innovation absolument majeure. C'est d'ailleurs le point de départ de ce projet, parti de là. C'est pourquoi à Lyon, pourquoi ce journal, arrive à vivre à Lyon pendant 4 ans, alors même que pour voir apparaître une presse dite ouvrière un petit peu durable, bon, il faudra attendre quelques années de plus, il faudra attendre au moins le début des années 1840 avec les journaux tels que l'Atelier ou autres. À Lyon, ça intervient beaucoup plus tôt, c'est un journal qui dure, et c'est un journal, je vais y venir, c'est un journal de très haute tenue. Qui écrit dans ce journal? D'abord, qui sont les rédacteurs? Sur la période de vie du journal, dans la première période, c'est un tulliste, c'est un chef d'atelier, mais qui est également un lettré, puisqu'il est instituteur sur l'une des communes des Monts d'Or, qui s'appelle Antoine Vidal, qui est peut-être l'un des auteurs les plus intéressants dans cette période-là. Puis le journal va être dirigé. Vidal dirige le journal pendant en gros une année, entre 1831 et l'été 32, puis Vidal décède. Probablement, j'en suis pas sûr, mais probablement du choléra, puisque vous savez que l'un des très grands faits de cette période-là aussi, c'est que le choléra déferle sur l'Europe au printemps 1832, et ça stupéfait et ça pétrifie littéralement toutes les populations, parce qu'on ne pensait pas que ce genre d'épidémie était encore possible à ce moment-là. On pensait que c'était relatif. On avait eu ça dans les temps anciens avec la peste, mais on ne savait pas on pensait que c'était terminé. Vidal décède très probablement du choléra en juillet ou en août 1832. Il est remplacé par Chastain, qui va durer un an à la tête du journal. Et Chastain, lui, est un républicain. Ce n'est pas un chef d'atelier, c'est un type qui a fait des études en droit, qui n'est pas allé au bout. C'est un agitateur. C'est un type qui a assez mauvaise. A probablement assez mauvais caractère, même très probablement a très mauvais caractère. Et il reste pendant une année, il va donner de la force, il va donner de la doctrine à ce journal-là. Et puis, au bout d'un an, il est mis dehors par les mutualistes, donc on a vu la dernière fois, qui avaient créé leur association, le mutualisme des chefs d'atelier. Ils mettent dehors Chastain en septembre 1833, parce qu'ils considèrent qu'il est en train tout simplement de digérer leurs propres revendications dans le cadre plus vaste du républicanisme. Et donc, ils veulent reprendre leur voie. Et le journal va être dirigé pendant jusqu'à sa fin, au printemps 1834, par les mutualistes, mais des mutualistes qui eux-mêmes sont devenus beaucoup plus républicains, qui sont beaucoup plus politisés. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce journal? On trouve des articles de fond qui sont rédigés par des rédacteurs ou qui sont récupérés de la... qui sont, pour certains, il y a quand même une littérature qui est une littérature autochtone, une littérature interne qui est une littérature importante. Vidal signe, je l'avais noté quelque part, je crois une cinquantaine de textes pendant qu'il est là en 6 mois à la tête de l'Écho de la Fabrique. Donc il y a des articles de fond. Il y a également la reproduction de grands articles qui paraissent dans la presse nationale, alliée, qui va être la presse républicaine dans la plupart des cas, mais également dans la presse régionale, puisqu'on est vraiment en plein essor de la presse régionale à ce moment-là. Et également, à l'intérieur de ce journal, vous avez ces articles de fond, vous avez ces reproductions d'articles, vous avez un certain nombre de rubriques littéraires, et puis vous avez des correspondances. Donc en fait, quand vous lisez l'article, lorsque vous lisez ce journal, vous vous rendez compte que finalement, ce journal fait résonance avec la situation lyonnaise. Il y a énormément de correspondants qui s'adressent au journal et en particulier qui interviennent sur les séances du Conseil des Prud'hommes, qui donnent leurs témoignages, qui disent ce qu'ils pensent par exemple sur les abus qu'on avait abordés la semaine dernière, l'abus du montage de métier ou l'abus des livres de compte ou d'autres abus, l'abus des durées de travail ou autres. Donc il y a des échanges qui se font. Comme je l'ai dit, dans le cadre de ce journal, il faut être très attentif et il en faut une lecture fine. Je ne sais pas si on l'a dit dès le départ, mais en fait, je ne me rappelle plus du tout si j'en ai parlé. C'est qu'on en a discuté et je ne me rappelais plus du tout. Mais en fait, le début de ce projet a été la réédition du journal. Donc en fait, nous, on a recommencé à travailler dessus. Je ne sais pas si on en avait parlé, mais on a recommencé à travailler dessus il y a 7 ou 8 ans, avec le projet de rééditer ce journal. Ce journal fait, dont il y avait à peu près 130 numéros, plus si on regarde les journaux satellites de 34-35 comme l'Indicateur que j'ai mentionné, mais également la Tribune prolétaire, voire l'Écho des travailleurs, ça fait à peu près 220 ou 230 numéros hebdomadaires de 8 pages. Et donc on a eu le projet au début des années 2000 de redonner ce texte à la lecture, et on l'a fait en le mettant en ligne. Donc en fait, il suffit que vous tapiez sur Mozilla, vous tapez Écho de la Fabrique, et vous tomberez sur le site qu'on a monté, qui est un site d'édition, dans lequel vous avez accès à l'intégralité des numéros de l'Écho de la Fabrique. Vous avez en intégralité accès à ces numéros en mode image, donc sous la version facsimilée comme ça, mais également en mode texte. Ce qui fait que si vous vous posez des questions sur la présence de tel ou tel terme dans ce corpus, par exemple, si vous faites une recherche sur le mot sang, par exemple, ça peut, ou sur le mot race, hein, ou sur le mot prolétaire, vous avez des outils de recherche plein de textes et vous saurez, par exemple, vous verrez le nombre de fois où il y a l'occurrence prolétaire ou l'occurrence sang dans le cadre de ce corpus-là. L'innovation, est-ce que j'en avais parlé de cette édition ? Non. La principale innovation qu'a permis l'édition en ligne, donc très vite, quand on a décidé de redonner accès à ce texte, on a décidé de le mettre en ligne, en accès libre, de le mettre en ligne avec des notes de contexte, donc c'est une édition critique dans laquelle on précise qui sont les acteurs et autres. Et la principale innovation en termes de diffusion que permettait l'édition en ligne, c'est qu'on a pu rééditer ce journal entre 2004 et 2009 sur le même mode que l'avaient publié les Canuts au départ. C'est-à-dire qu'eux avaient commencé à publier le 30 octobre 31, et nous on s'est calé là-dessus le 30 octobre 2004, et le 30 octobre 2004 on a publié le numéro 1, et ainsi de suite, les semaines suivantes, on a publié les numéros correspondants. Ce qui a donné une vie assez importante à ce site, et ce qui a permis de le faire connaître, ce qui fait que l'un des résultats les plus intéressants, à mon avis, de ce travail, a été que, par exemple, le texte a été réutilisé par les troupes de théâtre ici à Lyon, que ça soit la compagnie Parlons-en, qui est la compagnie de Bernard Gerland, qui avait monté un premier spectacle à partir des textes de l'Écho de la Fabrique auxquels il accédait en ligne, ou plus récemment la compagnie du Chien Jaune qui a utilisé les textes de l'Écho de la Fabrique pour reparler de cette période-là, mais surtout se réendosser ces termes, réutiliser ces termes qui finalement, puisque finalement les pages de l'Écho de la Fabrique parlent de problèmes qui sont des problèmes dont on a parlé la semaine dernière, dont on parle maintenant, qui sont des problèmes simplement de dérégulation, régulation du travail, d'égalité et inégalité, des problèmes très, très présents. Quand on regarde comment a été composé ce journal, comme je l'ai dit, ce qui frappe en premier, moi ce qui m'a frappé en premier quand j'ai eu à travailler sur ces textes au début des années 2000, c'était la tenue du journal, la tenue des articles, et en particulier des articles locaux, des articles qui étaient signés par Vidal, par Falconet, par Bouvry, par Chastain après, par Bernard, donc par des chefs d'atelier. Donc la qualité de ces articles et la structuration extrêmement professionnelle du journal. C'était un véritable journal d'opinion, un véritable journal avec une très très haute tenue dans les articles. Quand on regarde comment était composé ce journal, en fait c'est assez simple. Il s'ouvrait sur des articles de fond qui portaient sur l'industrie nationale, l'industrie lyonnaise ou autre, qui étaient en gros sur l'actualité industrielle, l'actualité du monde de l'industrie, et l'industrie étant le travail. En page 2, 3, vous aviez la véritable colonne vertébrale du journal, qui était le compte-rendu du Conseil des Prud'hommes. Chaque semaine, il y avait le compte-rendu du Conseil des Prud'hommes, où on voyait comment, de façon continue et de façon régulière, on essayait de mettre en place un ensemble de conventions, et on espérait un ensemble de conventions collectives, durables concernant les conditions de travail dans la fabrique. Donc vous aviez au cœur du journal le compte-rendu du Conseil des Prud'hommes avec les notices qui s'appelaient aux rédacteurs, qui étaient des chefs d'atelier qui prenaient la plume partout à Lyon pour expliquer les cas, pour expliquer les problèmes qu'ils avaient eus dans telle et telle séance, pour expliquer qu'il fallait voter ou qu'il fallait décider ce qu'ils appelaient une damnation contre les mauvaises maisons de commerce qui faisaient des entorses au régime, au code du travail qui était en train de se mettre en place. Une damnation, c'est qu'on mettait la, on disait la maison un tel et un tel est une maison de voleurs ou autre parce que regardez ce que. Donc il y avait des maisons qui ont été désignées comme ça à la vindicte des lecteurs. Donc le cœur de ce journal, c'était le compte-rendu du Conseil des Prud'hommes et les réactions. Puis les deux ou trois dernières pages étaient concernées par des articles qui étaient plus des articles culturels au sens large, puisque je l'ai dit, l'objectif c'était l'émancipation physique, mais aussi l'émancipation morale des travailleurs. Et donc là, il y a un certain nombre de rubriques qui s'appellent des rubriques de littérature, des rubriques de théâtre, des rubriques faisant les comptes rendus d'un certain nombre d'inventions, d'innovations, inventions technologiques. Puis le journal se fermait par des avis, puisque là aussi, un des objectifs de ce journal, qui était un objectif pratique, était quelque chose qui avait déjà été au cœur de la création du devoir mutuel, qui était l'indication, c'est-à-dire fournir des informations pour rationaliser le fonctionnement de la fabrique, pour faire en sorte, par exemple, que tel ou tel ouvrier était sur le carreau, s'il y avait la disponibilité de tel ou tel ouvrier, un chef d'atelier puisse être au courant et puisse les employer le plus rapidement possible. Donc la dernière page du journal était une page d'avis, où par exemple, il y avait également la chronique des inventions successives, puisque vous savez que le métier jacquard qui avait été implanté à partir des années 1810, 1815, 1820 à Lyon, était en fait une innovation qui était une innovation collective, contrairement à ce qu'a raconté la légende. Il y a toute une légende autour de jacquard, mais c'était une innovation collective. Et donc le métier jacquard a été constamment perfectionné par différents chefs d'atelier sur Lyon. Et donc en dernière page de l'écho de la fabrique, vous aviez une chronique des inventions qui concernait le jacquard, mais également les lampes qui étaient utilisées dans les ateliers ou autres. Et puis, juste avant, donc là je suis à la fin du journal, je reviens une page avant, vous aviez une rubrique qui était une rubrique intitulée « Coup de navette ». Cette rubrique est très très intéressante parce que c'était des très brèves, dans un certain nombre de cas, à travers lesquels les journalistes canus ou alliés des canus moquaient les autorités, moquaient les négociants, moquaient les mauvais payeurs sur la place de Lyon. Alors je vous en cite un certain nombre, en voilà une. En janvier 32, donc on est un mois et demi. On est un mois et demi après l'insurrection. Voilà le coup de navette du 22 janvier 1832. Quand on dit à un égoïste que des ouvriers meurent de faim, il répond « Ce ne seront pas ceux-là qui se plaignent. » Une autre contemporaine que j'aime beaucoup, même jour, numéro du 22 janvier 1832, je cite « Un prince a dit « Les intérêts des uns doivent être les intérêts des autres. Les ouvriers sont toujours les uns. Qu'en seront-ils donc les autres ?» Je vous en ai fait... Moi, je les aime bien, alors je vous les mentionne toutes. Hein. Je mentionne du moins un certain nombre. Alors, c'est souvent codé. C'est pour ça que j'ai retenu celle-là. C'est souvent codé, et là, il faut que je contextualise un tout petit peu. Lorsque l'insurrection prend fin en décembre 1832, l'insurrection en 1831, l'insurrection prend fin, bien sûr, parce que les ouvriers ont eu les clés de la cité pendant 10 jours, mais il y a pratiquement toutes les troupes du roi qui arrivent sur Lyon et qui sont dirigées par le prince d'Orléans, le fils du roi, et par le maréchal Soult, qui est son ministre de la guerre. Ils arrivent et l'une des premières choses qu'ils font, c'est qu'ils retirent les livrets des ouvriers, ils prennent bien entendu toutes les armes, et puis ils disent que le tarif s'est terminé. Alors comme, effectivement, il faut quand même qu'ils donnent quelques gages aux ouvriers, ils proposent de créer ce qu'ils appellent une mercuriale. Alors, c'est quelque chose d'assez... C'est des distinctions qui sont assez byzantines, parce que le tarif, on considérerait que le tarif est quelque chose qui est fixé a priori, c'est un ensemble de prix qui serait fixé a priori, alors que les négociants et les autorités disent qu'ils veulent bien octroyer une mercuriale qui serait une constatation des prix a posteriori, mais qui permettrait de réguler un petit peu. Bon, alors les canuts, bien entendu, ne sont pas dupes. Ils disent, euh, disent que bon, on ne voit pas bien comment ça va fonctionner, qui va fixer la mercuriale, qui va la constater, qui va faire en sorte qu'elle soit effectivement appliquée à Lyon. Ils se rendent compte surtout que, bien entendu, c'est une proposition qui est une proposition vaseuse et que de toute façon, elle ne sera pas appliquée. Et donc, commence à apparaître dans les coups de navette, à partir du printemps 1832, la mère curiale. Et en juin 1832, on a ce coup de navette très court, la mère curiale se plaint de ceux qu'on ne la visite pas assez souvent. Donc là encore, texte tout à fait significatif. Et puis celui qui est... les coups de navette, bien sûr, évoluent avec l'actualité. Ils sont gentillés à certaines périodes. Et à d'autres périodes, ils deviennent beaucoup plus acides, beaucoup plus agressifs. En voilà un qui est de octobre 1832. Je l'ai dit, à partir de l'été 1832, il y a un certain nombre d'illusions, côté républicain et côté ouvrier, qui s'envolent définitivement. Ils comprennent que la révolution de 1830 a été dérobée par le pouvoir de Juillet, que les libéraux de la veille, qui avaient poussé à la révolution contre la monarchie de Charles X, ont retourné leur veste et ont pris les sièges au pouvoir. Des gens comme Adolphe Thiers, comme François Guizot, sont désormais les hommes du pouvoir et ils veulent surtout freiner tout débordement révolutionnaire, ils veulent freiner tout débordement des libertés. Et donc les différents opposants s'organisent un petit peu. On est dans une période aussi où ils vont être tous en procès. Les opposants s'organisent et la plupart des cas sous le coup de la censure, de la répression et autres. Et on voit apparaître dans la presse, qui est la presse du gouvernement à Lyon, le terme de tracassier. Disent le gouvernement, le préfet, commence à dire que les ouvriers sont tracassiers. Et donc, eux répondent dans l'écho de la fabrique du 14 octobre 1832, voilà le coup de navette, on appelle tracassier un homme qui ne sait pas mourir paisiblement de faim. Bon, il y a aussi l'art d'économiser les économies de ses économies par M. Prodigue. Ça m'a fait penser à pas mal de choses contemporaines. Donc, on voit apparaître là en août 33 ce coup de navette, où il liste un ensemble de textes fictifs, de livres fictifs qui devraient paraître dans les mois qui viennent. M. Prodigue, c'est bien sur le roi, parce qu'il a... Tout le monde est au courant du budget de la cour. À ce moment-là, il y a un certain nombre de dépenses qui sont faites, somptuaires, qui sont faites par la cour, mais également à Lyon, par exemple. L'un des grands débats va être, qu'on va voir apparaître dans l'écho de la fabrique, c'est comment se fait-il que la municipalité, le pouvoir municipal, mette autant d'argent dans les théâtres, qui sont à ce moment-là, et en particulier dans les théâtres qui étaient les théâtres des riches, et si peu dans l'eau qui est indispensable à la population. Donc c'est un pouvoir qui est un pouvoir qui dilapide un certain nombre de ressources. Et donc, l'un des livres qu'ils imaginent, c'est un livre donc écrit par M. Prodigue, qui est le roi, ou à la limite ses sbires, hein, comme le préfet Gasparin. Et donc, c'est l'art d'économiser les économies de ses économies par M. Prodigue. Voilà le titre de l'ouvrage. Donc, voilà un petit peu comment est composé quelle est l'architecture de ce journal. On repère quand même un certain nombre de thématiques entre octobre 1831 et 1834, des thématiques qui vont être constantes, qui vont être régulières dans les cadres de l'écho de la fabrique. Et en particulier, un des points sur lesquels les journalistes vont être les plus vigilants et vont considérer que véritablement une voix est nécessaire, une voix et donc un pouvoir est nécessaire, c'est les prud'hommes. Donc les prud'hommes, qui, je vous le rappelle, avaient été créés à Lyon en 1806, qui étaient censés mettre en place une justice sur des bases paritaires. Bien entendu, les bases paritaires ne sont pas réglées. Bien entendu, les prud'hommes fonctionnent, puisque, je vous l'ai dit, les statistiques de conciliation sont énormes. Le pourcentage des conciliations est énorme dans le cadre des prud'hommes, mais dans un certain nombre de cas, il y a des abus à l'intérieur des prud'hommes, il y a des dysfonctionnements à l'intérieur des prud'hommes. Ces dysfonctionnements pénalisent, dans la plupart des cas, le canut bien plus que le négociant. Et donc, dans les pages de l'écho de la fabrique, il y a tout un ensemble de textes qui portent sur les réformes nécessaires des prud'hommes. Et il y a deux revendications qu'on voit apparaître dans cette période-là. Il y a plutôt une première revendication et il y a un deuxième ensemble de revendications. La première revendication, c'est en 1831, au moment de l'insurrection, ils arrivent à obtenir, à la fin de l'insurrection, la promesse que les prud'hommes seront réorganisés sur des bases plus équitables. Le roi et son gouvernement, le gouvernement de Casimir Perier, travaillent à ce problème avec leur propre conception de l'équité et pondent une nouvelle organisation des prud'hommes qui voit le jour au printemps 1832. C'est une amélioration, mais dans le cadre du journal de la Fabrique, on va considérer que c'est une quasi-amélioration, pour deux raisons. La première raison, c'est que dans la nouvelle mouture des prud'hommes, la classe de la Fabrique élit plus de prud'hommes dans le cadre du Conseil général, mais elle en élit 9. Premier problème, ne peuvent être élus, suivant la nouvelle ordonnance, que les chefs d'atelier possédant au minimum 4 métiers. Il n'y a qu'eux qui peuvent être élus et il n'y a que eux qui peuvent être électeurs. Donc bien entendu, les chefs d'atelier ne sont pas dupes et c'est simplement une énième manœuvre permettant de saucissonner la classe des chefs d'atelier. Donc ils demandent à ce que tous les chefs d'atelier possédant de 2 à 8 métiers puissent participer au corps électoral. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que bien sûr, on est sur un nombre impair. Donc le système de la Fabrique prévoit 9 prud'hommes pour la Fabrique, et 5 prud'hommes sont des négociants, et 4 prud'hommes sont des chefs d'atelier. Alors, plusieurs réactions fusent à l'intérieur des pages de l'écho de la Fabrique. Première réaction, celle de Vidal, à propos de ce rapport 4-5. On a voulu montrer que le pauvre était toujours le pauvre. Bon, mais ça c'est la réaction de Vidal, et puis bien entendu, dans les pages de l'écho de la Fabrique, vous avez un écho de cette situation dans la rubrique coup de navette. Voilà la coup de navette. On demandait à un homme de loi pourquoi il y aurait 9 prud'hommes marchands et seulement 8 ouvriers. Ils étaient 17, hein, je me suis trompé, c'est dans la deuxième organisation qui seront plus que 9. Donc, pourquoi il y aurait 9 prud'hommes marchands et seulement 8 ouvriers? C'est, répondit-il, pour qu'il y ait autant de raisons d'un côté que de l'autre. Donc voilà la réponse qui était donnée et qui était, là encore, vous voyez la façon dont il retournait la... Donc il y a une revendication, première revendication par rapport aux prud'hommes, organiser les prud'hommes sur des bases plus équitables, pour que les décisions qui soient prises, que les décisions soient prises de façon beaucoup plus paritaire. Deuxième grande revendication, elle porte sur le fonctionnement même des prud'hommes. À l'intérieur des prud'hommes, une première revendication que vont avoir les journalistes de la feuille Canut, c'est ce qu'ils appellent le principe de la libre défense. Parce que dans le cadre des séances du Conseil des prud'hommes, les séances du Conseil des prud'hommes admettaient simplement la présence du négociant, devant le Conseil des prud'hommes, du négociant et du chef d'atelier. Bien entendu, comme il est souligné à de multiples reprises dans le cadre du journal des Canuts, c'est un combat qui est un combat extrêmement déséquilibré. Pour une raison simple, c'est que le Canut n'a souvent pas les ressources en termes d'éloquence, d'argumentation et autres pour se défendre face aux négociants. Et donc, dans un certain nombre de cas, le Canut est simplement soit muet, soit maladroit dans sa défense, et il est systématiquement battu. Donc, ce que demandent les journalistes de l'écho de la Fabrique, par le système de la libre défense, c'est que le Canut puisse être, le chef d'atelier, le Canut ou autre, puisse être assisté dans le cadre de sa défense, et donc puisse être assisté par un avocat. Donc, c'est une revendication qui court dans les 2 ou 3 années de l'écho de la Fabrique pour qu'un avocat puisse aider le Canut dans le cadre de la défense. Et cette défense, cette libre défense, est systématiquement refusée par le pouvoir municipal et par le préfet. Ça, c'est une première revendication pour modifier le fonctionnement des prud'hommes. Et la deuxième, qui est une revendication extrêmement importante aussi, c'est le principe de la jurisprudence fixe. Parce que l'objectif que visaient, bien entendu, les Canuts dans le cadre du Conseil des prud'hommes, c'est que les décisions que les décisions qui étaient prises semaine après semaine constituent à terme un véritable code de la fabrique. Donc il voulait que les différents accords collectifs qui se faisaient de semaine après semaine dans le cadre du Conseil des Prud'hommes fassent jurisprudence. Pour une première raison simple, c'est que là aussi, les journalistes soulignent cet aspect-là. Les séances des prud'hommes étaient souvent en défaveur des canuts et coûtaient énormément de temps aux canuts. Donc y a, là aussi, il y a des textes là-dessus. Il n'était pas rare qu'un conseil des prud'hommes, le canut se déplace cinq fois, et que cinq fois, six fois, le négociant ne soit pas présent. Et le négociant se pointant à la septième ou huitième audition. Donc, on voulait absolument régulariser ce fonctionnement-là. Et l'un des moyens aussi pour régulariser ce fonctionnement et pour diminuer le nombre de déplacements du canut est de faire en sorte que quand un cas a été jugé concernant les tirelles ou les abus de montage de métier ou autre, la décision prise à ce moment-là fasse jurisprudence. Et donc, c'est une demande constante qui est constamment refusée dans cette période-là, qui sera refusée même dans la période d'après, c'est-à-dire dans la période 40-48 par le pouvoir. Et la seule manière que trouvent les journalistes de suppléer à ce manque, c'est de publier à l'intérieur de l'écho de la fabrique ces notices de jurisprudence. Donc à partir des numéros de l'année 1832 ou 1833, vous avez des notices de jurisprudence du Conseil des prud'hommes qui apparaissent dans l'écho de la fabrique. Et donc, bien sûr, ça ne fait pas légalement jurisprudence, mais ils font le relevé et ils présentent les cas qui ont été soumis aux prud'hommes chaque semaine sous une forme jurisprudentielle. Donc voilà l'un des principaux points sur lequel intervient le journal du canut. Les prud'hommes et la modification et l'amélioration de ce qui était pour eux le principal outil de régulation de leur industrie. Un outil de régulation dont on avait vu la semaine dernière qu'il était extrêmement intéressant parce que c'était un outil de régulation qui tendait à une forme de démocratie. Démocratie locale, démocratie imparfaite, démocratie locale, démocratie en grande partie silencieuse, mais ceci dit, démocratie quand même. Et donc, il voulait absolument que ce système-là évolue. Il voulait que ce système s'améliore et prenne une plus grande résonance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel va insister, la deuxième grande thématique sur laquelle va insister le journal des canuts est le thème de l'association. Le thème des prud'hommes renvoyait peut-être plus nettement à leur industrie même, mais l'une des grandes idées que l'on voit apparaître au tournant des années 1830, je vous l'ai dit, ces années 1830 qui sont des périodes de révolution, l'un des grands thèmes qu'on voit apparaître est le thème de l'association, puisqu'il apparaît à tous qu'il faut absolument, à ce moment-là, trouver une solution entre, d'un côté, ce que prônent les libéraux, et notamment les libéraux sur le plan économique, c'est-à-dire la concurrence, un système de concurrence et un système dérégulé, totalement dérégulé, et de l'autre côté, un système de centralisation arbitraire qu'ils avaient dans le régime monarchique. Il faut trouver désormais, selon eux, une nouvelle manière d'associer les industriels. Donc, on est dans une période où toutes ces formules vont surgir. Vous le savez sans doute, le terme association est l'un des grands thèmes qu'on voit apparaître à ce moment-là, parce qu'on sait très bien que ce n'est plus un système de corporations qui ont été abolis. Les systèmes de corporations ayant été abolis par la loi de 1791, par la loi de Le Chapelier. Donc, ce n'est pas un système de corporations vers lequel on doit se diriger. Ce n'est pas un système entièrement dérégulé. Ce n'est pas un système totalement centralisé. Mais c'est un système où le travail, le capital et les autres éléments de la production, par exemple le talent qu'on va retrouver chez les fourriéristes, ça doit être associé sous une nouvelle forme. Donc il faut trouver une formule d'association. Donc vous le savez, des termes apparaissent, association, mais par exemple le terme socialisme apparaît en 1834. Alors, pendant très longtemps, on a considéré que le terme apparaissait dans un texte de Pierre Leroux qui paraît dans la revue encyclopédique en 1834. Dans ce texte, Pierre Leroux, qui est Bon, il y a un regain d'intérêt autour de Pierre Leroux à l'heure actuelle, mais Pierre Leroux renvoie dos à dos les deux grands systèmes qui sont selon lui l'individualisme, et ça c'est pour lui c'est l'économie de marché, et le socialisme. Le socialisme, dans ses termes, c'est le socialisme saint-simonien, donc c'est un socialisme capacitaire, centralisateur et autres. Mais on voit apparaître le terme socialisme. Et entre les deux, d'ailleurs, Leroux parle du système de l'association. Pendant longtemps, on a considéré que c'était dans ce texte de Pierre Leroux, qui est une préface ou une présentation d'un cours d'économie politique qui est donné par son frère Jules Leroux, on a pensé que c'était là-dedans qu'il y avait les premières occurrences du terme socialisme. Les toutes dernières recherches montrent que le terme socialisme, en fait, commence à circuler au début des années 1830. Mais le grand thème sur lequel tous les réformateurs, ce qu'on appelle à ce moment-là les réformateurs, qu'on va appeler plus tard les utopistes, ou les socialistes associationnistes, ou les socialistes romantiques, tous les auteurs de cette période-là travaillent sur ce concept d'association, qui est une notion à inventer, selon eux, pour les nouveaux temps, pour le nouveau système industriel. Donc je vais commencer le dernier... Est-ce que vous avez des questions sur l'écho de la fabrique en... Ah, il faut aller le regarder, mais ça c'est une condition. C'était vraiment un très très joli texte. Vraiment un très joli texte, et c'est vraiment pas pour rien que c'est les thématiques qui apparaissent là, dans ce journal. Des thématiques qui sont également au cœur de l'activité de la fabrique sont aujourd'hui reprises et font aujourd'hui résonance dans un certain nombre de pièces de théâtre. La dernière pièce de théâtre de la Compagnie du Chien Jaune, c'était sur les prud'hommes, ce qui était véritablement un thème pour une pièce de théâtre, qui était vraiment un thème plutôt original. Mais quand on lit dans le détail, dans ce journal-là, ou dans les journaux de la période 40-48, quand on lit dans le détail ces comptes rendus du Conseil des prud'hommes, il y en a un certain nombre... où il y a un certain nombre d'épisodes qui sont des épisodes absolument dramatiques ou avec véritablement un pouvoir, enfin une dimension dramatique, une dimension visuelle qui est extrêmement forte dans le cadre du Conseil des prud'hommes, mais également dans le cadre des ateliers ou de l'économie de la fabrique. Je ne vais pas citer ici, en 1832 par exemple, on voit apparaître dans les coups de navette la maison Olivier, la maison des frères Olivier. Parce qu'un canut écrit au rédacteur du journal de l'écho de la fabrique pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Je suis allé dans la maison Olivier, dans la maison des frères Olivier, pour faire respecter tel droit qu'on a négocié dans le cadre des prud'hommes. Et à l'intérieur de la cage, puisque la cage était l'endroit où le négociant... ou plutôt le commis du négociant, recevait les chefs d'atelier, les faisait poireauter souvent pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, avant de les faire venir, vérifier si les tissus qu'ils rapportaient étaient propres, les trois quarts du temps, ils pinaillaient sur la... Bon. Et donc, à l'intérieur de la cage, il y avait le commis, souvent une dizaine de chefs d'atelier, et puis parfois le négociant qui passait. Et donc, ce canut avait demandé qu'un certain nombre de droits soient respectés, et le négociant Olivier d'abord a pris l'écho de la fabrique et l'a déchiré devant les autres, et puis a sorti des pistolets et a commencé à gesticuler partout. Et donc dans l'écho de la fabrique, vous avez, je ne sais pas si vous les retrouvez, vous avez un certain nombre de coups de navette qui parlent des agissements assez particuliers. On ne sait pas le tirage. On ne sait pas exactement le tirage de l'écho de la fabrique, et surtout on sait... Il est difficile, même à partir du tirage, de savoir exactement par combien de personnes il était lu. On pense qu'il y a énormément de personnes qui le lisaient, parce que c'était un journal qui circulait, et qui circulait énormément, qui était dans les cafés. Alors, on sait où se situaient les cafés des négociants, près de la place des Terreaux, notamment, dans cette période-là, et on sait où sont les différents cafés dans lesquels l'écho de la fabrique était distribué et lu par les canuts, lu, partagé et autres. Concernant l'alphabétisation des canuts, là aussi elle est vraisemblablement très importante. Et un des points qui est vraiment frappant, c'est justement de regarder, je pense pas que c'était réécrit, c'est de regarder les rubriques qui s'appellent au rédacteur, et dans lesquelles les négociants et les canuts écrivaient. Et très souvent sur le plan littéraire, c'est vraiment très bon. Je veux dire, le style est excellent, où on le voit très bien on peut repérer également à la fois le fonctionnement du journal et le niveau de culture et d'alphabétisation. Ce n'est pas simplement l'alphabétisation, c'est le niveau de culture, d'alphabétisation et de réflexion qui était atteint par les Camus. On le voit très bien dans le cadre d'un épisode qui est un épisode absolument extraordinaire qui se déroule dans les cours de la fabrique et qui a lieu à l'automne 1832. À l'automne 1832, je crois que je l'ai dit la première fois, les Camus se rendent compte qu'ils sont désormais propriétaires d'une voix, mais ils ne sont pas propriétaires de... Ils ne sont pas propriétaires du terme qui les désigne. Et donc, ils veulent absolument trouver un terme qui remplace le mot canu, parce qu'ils considèrent que le mot canu est péjoratif. Le mot canu 1 est péjoratif, et parce qu'il renvoie à une certaine représentation du canu comme étant, pour reprendre les termes de Léon Fauché, qui parlera de Jacquard, une race de semi-crétins. Donc, le canu, c'est lié à ça. Et deuxièmement, le terme canu ne leur va plus du tout non plus, parce que c'est un terme qui leur a été donné de l'extérieur. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont dotés de ce terme-là. Et donc, à l'automne 1832, il y a un concours qui s'ouvre dans le cadre de l'écho de la fabrique pour trouver un terme de substitution au mot canu. Le point intéressant, l'un des premiers points intéressants, c'est que d'abord ce concours s'ouvre, et deuxièmement, l'épisode se déroule sous la forme d'un concours ouvert. Donc encore une fois, c'est une délibération, c'est une discussion publique à l'intérieur de l'écho de la fabrique qui se déroule. Et pendant 2 mois ou pendant 3 mois, les propositions affluent au journal d'un certain nombre de canus qui disent « Moi, je propose tel ou tel terme pour remplacer le mot canu. » Alors, ces termes, on les a. Il y en a un certain nombre qui sont... Donc, les termes sont reçus août 1832... de août, en gros, à octobre-novembre 1832. Donc, vous avez les mots proposés. Le dénommé Colomb-fils propose arachnéen, puisque finalement, il dit, nous travaillons sur le fil de soie. Bitry lui propose polymide. Vous avez tissutier, artisseur. Colomb-père propose, lui, en septembre, pamphylarien. Un J.H. lui propose bombitisseur. Il y a un autre séquirarié. Donc pendant 2 mois ou pendant 3 mois, vous recevez des propositions comme ça. Et donc vous pouvez lire les différentes propositions. Et c'est des propositions. Bon, certaines vont sourire. Effectivement, bombixier, arachnéen, pamphylarien. Bon. Mais ceci dit, c'est un, c'est très bien écrit. Et deux, c'est argumenté. Moi, j'ai reproduit un texte de. J'ai reproduit le texte d'un dénommé Raoul Veloutier qui défend la nécessité effectivement de créer un nouveau terme pour des raisons politiques, et l'argumentation est très forte. L'argumentation 1 est très forte et le texte est très très bien écrit. Donc je pense que le niveau d'alphabétisation était très élevé. Alphabétisation et culture. On le voit à ça, on le voit également à un certain nombre de poèmes qui sont publiés. Alors pas les poèmes qui sont publiés. C'est ce que je disais au départ, il y a le problème à la lecture de ce journal, c'est que bien sûr, il y a plusieurs voix qui s'expriment, et il y a plusieurs tendances qui cherchent à, non pas à contrôler, mais à avoir le plus d'intensité dans le cadre du journal. Vous avez des chefs d'atelier, vous avez qui écrivent dans ce journal, vous avez des chefs d'atelier mutualistes et des chefs d'atelier non mutualistes, et ce n'est pas la même voix. Vous avez des Saint-Simoniens, comme des Saint-Simoniens négociants, comme il y en a un qui intervient et qui va même donner de l'argent pour le journal, qui s'appelle Barthélemy Arlès Dufour. Vous avez des négociants qui interviennent, alors des négociants qui sont proches des Camus, qui sont proches de la, et qui veulent maintenir le système de la manufacture dispersée. Mais c'est des négociants, ils n'ont pas la même voix, donc c'est parfois très difficile de lire ça. Mais quand on regarde précisément ces articles, on se rend compte que les articles qui sont écrits par les chefs d'atelier sont de très très haut niveau. Et pas simplement, c'est même pas simplement une question d'écriture. Moi j'ai travaillé spécifiquement dans le cadre d'un article sur une controverse qui se développe dans les pages de l'écho de la fabrique sur le thème des machines. à savoir, bien sûr, c'est le grand thème, et c'est un thème de toute façon qui est un thème récurrent, c'est la question de la substitution de l'homme par la machine, la question de la déqualification et autres. Et il y a une controverse, une véritable controverse qui se développe dans les pages de l'Écho de la Fabrique, entre Joseph Bouvry, qui est l'un des fondateurs historiques du mutualisme. Je l'ai dit, le mutualisme est créé en 1827 par Pierre Charnier, mais celui qui prend la main très rapidement, c'est Joseph Bouvry, et c'est un type absolument remarquable. Donc Bouvry d'un côté, et de l'autre côté, celui qui vient lui donner la leçon, qui est une leçon d'économie politique, et Anselme Pattin, qui est le jeune directeur du journal Le Précurseur, qui est le grand journal du républicanisme girondin à Lyon. Et dans le cadre de cette controverse-là, les arguments de très loin les plus forts, les moins ingénus, les moins silencieux sur un certain nombre de problèmes économiques concrets, sont avancés par Bouvry. Donc je pense qu'il y avait, on ne va pas le dire pour l'ensemble de la classe des Canus, et encore une fois, il y avait des distinctions de conditions qui étaient extrêmement importantes entre le Canu qui avait 8 ou 9 métiers et le Canu qui avait 2 métiers. Il y avait des différences de conditions qui étaient extrêmement importantes. Mais ceci dit, la classe des Canus, qui essayait donc de s'unifier, de s'homogénéiser, surtout de définir une identité qui pouvait représenter une force dans le cadre des négociations au Prud'homme ou dans d'autres lieux, la classe des Canus était à un très très haut niveau.
Oui.
Est-ce que la qualité de celui qui a écrit l'article apparaissait à la fin de l'article ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de dire que telle personne était un chef d'atelier ou un
écrivain ? Oui, très souvent. Oui.
Un tel
chef d'atelier. Oui, 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 c'était signé. C'était signé et là encore, cette revendication de l'identité était très présente. Cette revendication de l'identité et le fait de souligner que l'identité d'un chef d'atelier était probablement une identité qui pesait le même poids que l'identité du roi est partout présente dans le cadre de l'Écho de la Fabrique. Et par exemple, un point sur lequel on le vérifie sans problème, c'est une série d'articles sur les questions de... sur le problème de la... Il y a une série d'articles courts sur le problème des nécrologies. Et les journalistes de l'Écho de la Fabrique disent « Mais enfin, on ne voit absolument pas pourquoi on aurait une nécrologie des rois et des princes, et que le chef d'atelier, pauvre ou à moitié pauvre, devrait finir dans la fosse commune et de façon anonyme. » Et donc, vous avez un certain nombre de rubriques dans l'Écho de la Fabrique où on rend compte de la mort d'un tel qui est nommé chef d'atelier de tel type d'Ada, qui est enterré à tel endroit. Et donc, il y avait véritablement une revendication sur ce point-là. Qui est... Dernier cheminement, ou dernière transversale que je propose. Je l'ai dit au départ, dans le courrier de Lyon, qui, comme le dit l'Écho de la Fabrique, avait le cauchemar et la monomanie du prolétariat. Il y avait des termes qui étaient très, très modernes. Hein. Parce qu'en 1834, juste avant la deuxième insurrection, les Canus sont systématiquement provoqués par les autorités pour se soulever. Parce que là, bien sûr, en 1834, comme je l'ai dit, les autorités ont préparé la deuxième insurrection. Ils ont été complètement débordés dans le cadre de la première insurrection, mais pas dans le cadre de la deuxième. Ils ont construit des forts tout autour de Lyon, et surtout, il y a des troupes, on le sait, il y a des troupes absolument partout autour de Lyon. Et donc, à partir du mois de janvier-février 1832, il y a des provocations incessantes du pouvoir pour que les Canus se soulèvent, et pour qu'ils soient écrasés. Pour que les Canus et les Républicains, puisqu'ils sont associés à ce moment-là, se soulèvent et soient écrasés. Et donc, ces agitations et ces gesticulations, on les trouve, par exemple, dans le cadre du journal de la préfecture, Le Courrier de Lyon. Concernant ce journal, je trouve que le terme qui est utilisé par l'Écho de la Fabrique est assez fort, parce qu'il parle de la sauvage imbécilité du journal aux 150 patrons. Donc, c'est un terme que vous trouvez en 1833 dans cette presse-là. Il a déjà dit qu'il y avait le cauchemar ou la monomanie du prolétariat. Donc, vous trouvez cette remarque-là dans le cadre de l'Écho de la Fabrique, mais c'était déjà le Courrier de Lyon qui avait considéré que les Canus étaient des gobe-mouches. Donc finalement, que les Canus étaient entièrement agis, se laissaient de l'extérieur par les intellectuels de gauche, en quelque sorte, qui étaient à ce moment-là les Républicains, qui s'exprimaient dans le journal de Raspail, le Réformateur, ou dans la Société des droits de l'homme, ou d'autres. Cette interprétation-là, vous l'avez dans le premier grand texte qui sort en 1834 et qui est le premier compte-rendu des événements de 1831-1834, qui est un texte signé par Jean-Baptiste Montfalcon, qui s'appelle les insurrections de Lyon, l'histoire des insurrections de Lyon. Et on sait maintenant que l'histoire des insurrections de Lyon de Montfalcon a été écrite sous la dictée du préfet de l'époque, qui était le préfet Gasparin, qui lui a dit en gros ce qu'il fallait qu'il écrive. Et dans ce texte-là, Montfalcon parle de l'écho de la fabrique, et il dit, le journal eut dû... Alors il dit bien sûr que ce journal, qui aurait dû travailler à la concorde des producteurs, avec en tête le négociant, puis le chef d'atelier, puis le compagnon dans cet ordre-là, l'écho de la fabrique n'a pas joué le jeu, a été plutôt un fervent de discorde, et ainsi de suite. Et donc je cite Montfalcon écrit, le journal eut dû s'appeler « Le fléau et non l'écho de la fabrique ». Et il poursuit, il dit, au reste, ses inspirations lui sont toujours venues, non des chefs d'atelier, mais des républicains. Alors, on trouve très très peu de témoignages, que ce soit du côté du pouvoir orléaniste, ou même du côté des premiers socialistes et des républicains, on trouve très peu de témoignages du fait que l'écho de la fabrique était un journal tenu en grande partie par les chefs d'atelier. Ils avaient des alliés qui étaient, comme je l'ai dit, les négociants ou les républicains, mais lorsque le journal sortait trop de l'orbite du mutualisme ou sortait trop de l'orbite des intérêts des chefs d'atelier, des industriels, dans ce cas-là, le mutualisme récupérait le journal. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est très net, par exemple, dans le cas de Chastain, qui fout à la porte, alors que c'était probablement un très très bon journaliste, ils le mettent dehors, en septembre 1833. On a très peu de témoignages, mais je vous en cite un, d'un commentateur qui écrit, qui passe à Lyon en 1832, et qui écrit, qui constate la situation, et qui écrit, « Le progrès le plus grand et le plus remarquable, c'est que les ouvriers eux-mêmes ont un journal rédigé par des ouvriers, où toutes les questions vitales du haut et du bas commerce s'agitent, se discutent, se résolvent. J'y ai lu des articles d'économie politique d'autant plus remarquables qu'ils étaient rédigés par des hommes de pratique et non pas de théorie. » Donc la personne qui écrit ça dans ses impressions de voyage en 1832, c'est Alexandre Dumas. Vous avez très très peu de témoignages de ce type-là à l'époque. Donc il était beaucoup plus facile de considérer que les insurrections des Canuts, les agitations des Canuts étaient en quelque sorte des phénomènes qui avaient été déclenchés de l'extérieur par les républicains. Alors, concernant donc cette dernière question, les Canuts simples transmetteurs des utopies et autres radicalités du début des années 1830. Je commencerai par quelques rappels concernant ces radicalités. Quelles étaient ces radicalités des années 1830? Donc, principalement, les trois courants dominants que connaissaient les Canuts et qui vont en partie les influencer sont les Saint-Simoniens, les Républicains et les Fouriéristes. Le premier point, c'est que effectivement les Canuts connaissaient, écoutaient, lisaient et débattaient de ces auteurs-là dans cette période. Alors j'ai mis deux phrases, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. L'une est d'un Saint-Simonien, c'est Michel Chevalier, qui est probablement le plus nauséabond des Saint-Simoniens. Il va faire une carrière absolument stratosphérique dans les différentes... Il va être un révolutionnaire à ce moment-là, les principaux lieutenants de l'un des pères de la religion saint-simonienne à l'époque, mais qui après va être terrassé par le gouvernement de Philippe, et qui va faire une carrière assez importante, d'abord au collège de France, et même en tant que politique, puisque c'est lui qui va signer l'un des grands traités de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1860. Alors Chevalier fait ça en novembre 1832, il faut un autre air à nos poitrines mâles, un autre vent à nos faces de travailleurs, nous irons chercher l'air pour respirer le vent qui souffle, au plus grand foyer de production et d'économie, s'enorgueillisse, le continent européen. Par Lyon, les Saint-Simoniens quittent à ce moment-là, en 1832, quittent à ce moment-là Paris pour aller à Lyon pour chercher, parce que Lyon est à ce moment-là la ville du travail. Les Saint-Simoniens sont déjà venus à Lyon, comme je l'ai dit, au printemps 1831, quelques mois avant la première insurrection, puisque Pierre Leroux, qui est encore un Saint-Simonien orthodoxe, et Jean Renaud,
sont déjà des prédications à Lyon, des prédications qui semble-t-il assister plusieurs centaines de Lyonnais, dont un grand nombre de Calvinistes. Donc j'ai retenu cette phrase qui me plaît beaucoup, que je l'ai dit, et une autre de Clarisse Vigoureux. Clarisse Vigoureux a été l'une des premières, l'un des premiers disciples de Charles Fourier. Et elle a écrit un texte qui était un texte très très important en 1834, qui est Parole de Providence, qui est juste après l'insurrection, la deuxième insurrection de Lyon, et au moment où il y a le procès Mons pour un certain nombre de républicains, de Camus lyonnais et de républicains parisiens, et d'ouvriers parisiens se traînaient devant la cour des pairs. Elle écrit Parole de Providence pour répondre à un autre grand texte qui a été publié par l'abbé Mélanet. Et c'est un texte fourriériste, et j'ai en particulier cette phrase qui est à mon avis au cœur du fourriérisme, qui est au cœur de l'espoir qui a représenté le fourriérisme pour ces gens-là dans cette période. Donc, il n'a jamais su. Et elle parle d'une science des vieillards que représentent alors des gens comme Lamennais, mais également une grande partie des socialistes, une grande partie des autres, tous ceux qui ne sont pas fourriéristes. Ont-ils jamais osé poser que le bonheur était dû? Donc c'est la possibilité même du bonheur, qui, je vais dire pourquoi, qui est posée par les fourriéristes à cette période.
Donc quelques mots sur ces trois courants. À moins qu'il y ait des questions, je suis vraiment entre deux. Je dois m'arrêter dans 8 minutes. Oui.
On peut considérer que 1830, le temps glorieux.
Oui.
On peut considérer que c'est une révolution de l'emploi. C'est la version de Rude.
Oui, c'est ce que disait Rude.
Et vite, très vite, les calculs, les ouvriers sont gênés.
Oui. En fait, on considère que c'est une révolution. Enfin, le point de vue qu'on a sur la révolution de 1830 c'est vraiment un mouvement pendulaire. Pendant très longtemps, on a considéré, y compris avec des gens comme Rude, que effectivement c'était une révolution mineure, si on la comparait à ce qui s'était passé par exemple en 1793, ou ce qui va se passer entre mai et juin 1848. Parce que finalement, ça aurait été une révolution dans laquelle les droits économiques et sociaux n'auraient pas été pris en compte. Cet aspect n'est pas faux, mais le pendule est reparti dans l'autre sens pour considérer quand même que cette révolution de 1830 est une révolution extrêmement importante, parce qu'il y a un certain nombre de libertés qui sont votées en 1830 et qui vont être expérimentées à ce moment-là pour la première fois. Et là, on en a parlé pendant cette heure, par exemple la liberté de la presse. Ça a été quand même une liberté absolument fondamentale, parce que vous n'auriez pas eu les Trois Glorieuses de juillet, un événement comme l'écho de la fabrique était impossible. Vous auriez eu toujours cette démocratie souterraine, mais vous auriez eu une démocratie dans laquelle la seule voix qu'aurait pu faire porter les Camus aurait été dans le cadre du Conseil des Prud'hommes. Tandis que la voix portée dans 1831-34-35, la voix portée dans le cadre du Conseil des Prud'hommes, mais était relayée par l'écho de la fabrique, donc était élue sur toute la place de Lyon, et l'écho de la fabrique était élu lui-même partout en France. Il y a même, c'est un des points sur lesquels je me suis cassé les dents depuis 4 ans, parce que j'ai jamais pu vérifier l'information. Elle est mentionnée par Rude, mais lui ne fait que la mentionner. C'est qu'en 1832, le gouvernement anglais envoie un de ses observateurs à Lyon pour essayer de comprendre, un type qui s'appelle John Boring, pour essayer de comprendre pourquoi l'industrie de la soie lyonnaise va si bien. Parce que les Anglais, eux, ont eu exactement la démarche opposée à celle des Lyonnais. C'est que les Anglais, en 1824 et 1826, ont aboli ce qui s'appelait les Spitalfield Acts, qui étaient tous les ensembles de règlements qui régulaient l'industrie de la soie à Londres. Et donc, en 1824-1826, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une dérégulation totale de cette industrie, en disant qu'il faut que cette industrie soit exposée au choc de la concurrence internationale et qu'il n'y ait pas de régulation intermédiaire. 6 ans plus tard, c'est la catastrophe à Londres. Une catastrophe absolument totale. Il n'y a pratiquement plus d'industrie de la soie. L'industrie est complètement dépassée, en particulier parce qu'il se part à Lyon. Et donc, ils envoient un type à Lyon, donc, qui s'appelle John Boring, qui va essayer de comprendre pourquoi Lyon fonctionne et pourquoi Londres ne fonctionne plus. Le point qui m'a... Enfin, il y a plusieurs points intéressants dans les dépositions de Boring. Mais Boring dit à un endroit, donc il va boire un coup, certainement,
avec les Camus, avec les gens de l'école de la fabrique. Alors peut-être qu'il avait trop bu ce jour-là, j'en sais rien. Mais ceci dit, à un moment, il dit « L'écho de la fabrique est le seul journal français lu à Londres par les ouvriers et réédité et traduit à Londres. » Alors, il y a eu cette phrase qui apparaît dans l'écho de la fabrique. Rude la reprend à un moment. J'ai vérifié, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Bien sûr, il ne peut pas y avoir une édition anglaise de l'écho de la fabrique. À l'époque, c'est impossible à imaginer ce genre de choses. Il y a probablement eu quelques passages de l'écho de la fabrique qui ont été retraduits dans le Times. On trouve quelques passages dans le Times ou dans d'autres journaux anglais. Mais c'est pour dire que ça a été quand même le fait d'accéder à cette forme de liberté qui était la liberté d'expression est un droit, bien sûr, c'est un droit, on peut considérer que c'est un droit politique, mais ça a aussi été un droit économique absolument fondamental. Donc, 1830, c'est vrai que c'est pas... Il n'y a peut-être pas autant d'acquis qu'en 1848, par exemple, ou qu'en 1793, mais ceci dit, il y a des acquis importants. Et il y a aussi des acquis qui sont à la baisse parce que, très rapidement, le parti de l'ordre, qui était le parti de Casimir Perrier, le parti de Guizot et autres, prend le dessus sur le parti du mouvement, mais ça se passe en gros entre l'automne 1830 et début 1831, où le parti du mouvement, qui lui voulait donner plus d'amplitude encore à ses libertés, et notamment à la liberté de vote, pour accéder à un corps électoral beaucoup plus important, le parti du mouvement est battu par le parti de l'ordre. Et en fait, c'est le parti de l'ordre qui va régner en France, en gros pendant toute la monarchie de Juillet, entre 1830 et début des années 1831 et jusqu'à 1848. Oui, je voulais dire que j'ai un tout petit doute quant à la séance de la semaine prochaine. Donc regardez le site d'ici deux jours pour voir si la séance de la semaine prochaine est annulée ou non. D'accord, mais je le dirai d'ici un ou deux jours, je saurai si je suis annulé.
Oui, est-ce que cette révolution quand même de 1830, c'est pas une révolution d'un type libéral? Au départ, où la grande industrie s'est appuyée également sur les ouvriers pour battre leur royauté, et ensuite a mis en place l'ordre pour ne pas que les ouvriers justement aient des pouvoirs, aient des acquis. Oui. C'est vraiment le début de la grande industrie en France. C'est vraiment les grands postes qui commencent à être là. Bon. Et cette liberté de la presse, c'est une liberté très libérale à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on en prie, mais c'est les libéraux qui veulent cette liberté contre une royauté qui était, qui était contraire à l'actionnaire. Il y a donné en place justement toutes les mesures très libérales pour la mise en place de la grande industrie.
Oui, mais c'est vrai que de toute façon, c'est les libéraux qui sont à l'origine de la chute de Charles X. C'est un certain nombre de libéraux qui s'expriment dans le Globe ou autre, qui poussent à la chute de la royauté telle qu'elle existait sous le régime de Charles X, qui met en place Louis-Philippe, qu'on appelle pendant quelques mois le roi citoyen, un grand républicain et autres, et puis qui petit à petit donne une coloration très conservatrice à cette révolution. Il n'empêche que dans les libertés qui étaient données au départ, par exemple la liberté de la presse ou la liberté du jury, qui est une liberté très très importante, c'était des libertés qui pouvaient donner lieu à un certain nombre d'acquis sociaux. Ce qu'espéraient les Camus, là, je le disais dans la présentation précédente, ce qu'espéraient justement les Camus, c'est qu'un certain nombre de procédures démocratiques qu'ils avaient expérimentées dans le cadre de la démocratie d'atelier, qui se faisaient au prud'homme, allaient être expérimentées grâce aux libertés de 1830 à l'étage supérieur. Et donc, allait permettre de mettre en place des régulations économiques et politiques qui étaient des régulations beaucoup plus démocratiques. Simplement, ce qu'on voit apparaître à partir de début 1831, c'est une réduction de la conception du libéralisme, des libertés politiques par le parti de l'ordre, et deuxièmement, la mise en avant du libéralisme économique. Mais il y aurait pu y avoir une autre évolution. Si, par exemple, le premier à être mis à la tête du gouvernement, mais pour le flinguer par... De Louis-Philippe, c'est le banquier Lafitte, qui était au départ un Saint-Simonien et autres. Si vous aviez eu un certain nombre de gouvernements menés par des gens comme Lafitte ou Odilon Barrot ou autres, vous auriez eu très certainement beaucoup plus de projets sur le plan politique, mais également sur le plan social et sur le plan économique. Là, c'est simplement qu'il y a eu une dérive qui a été une dérive pratiquement immédiate du gouvernement de Juillet. Et les types qui sont arrivés à la tête du gouvernement, et notamment le grand homme qui va diriger les gouvernements successifs, qui est François Guizot, avaient une conception qui était une conception extrêmement réduite des libertés, couvrait la charte de 1830. Mais vous pouvez y avoir des interprétations qui étaient beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, sur la presse, c'est bien ce qu'on voit. On voit qu'il y avait des manières d'utiliser ces libertés qui pouvaient être beaucoup plus ambitieuses que les réalisations qui ont été apportées. Non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faudrait que je revienne. Il reste la dernière. Hein ? Ben oui, parce qu'il reste ce dernier point, et puis ça permet de parler un peu d'acteurs qu'on a évoqués juste là. C'était les Républicains de la Société des droits de l'homme, ou des gens comme Raspail ou Blanqui, qui étaient les Saint-Simoniens. Fourier était probablement le plus dingue, mais qui crée. Qui a une école fourieriste qui est très, très, très efficace. Donc, oui, normalement, on va essayer de. D'accord, j'essaierai de dégager le départ. Voilà.